Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Donc, nous allons prendre le repas du midi autour de, devinez, il est 15h et plus en après-midi, alors c'est le temps pour refaire ses forces. Je prends le temps de regarder travailler tous ces gens qui nous accueillent, qui font le service, qui ne cessent de nous apporter ce dont nous avons besoin. C'est une école, vous savez, l'hospitalité, la restauration, c'est une école. Ça se sent quand on entre dans un lieu de restauration, on sent tout de suite si on est une chose ou si on est une personne. On sent tout de suite si on est une carte de crédit ou une pièce de monnaie ou une personne. On sent tout de suite si on est favorable à l'étranger ou si on est dans un ghetto. Ça se sent. Alors ce restaurant, cet endroit, eh bien, c'est un exemple qui devrait nous étonner et nous instruire, même dans l'Église, nous qui sommes appelés à servir comme Jésus nous l'a demandé. Alors, nous voyons le service. Et les Mexicains sont simples, ils sont joyeux et faciles à aborder. C'est ce que nous vivons. Pedro va venir nous chercher et nous ramener. Alors, il est toujours heureux de nous retrouver. Ce garçon-là a le bonheur dans le cœur et il cherche toujours à faire des blagues, à pouvoir nous faire rire. Et ça réussit vraiment bien. Donc, encore une fois, nous allons prendre un long moment dans la ville de Mexico. On revoit un peu les mêmes artères, les mêmes bouchons. Et bon, l'accélération de la pollution vient nous affecter de plus en plus. Ça va devenir quelque chose d'important. Et là, nous rentrons à la maison des prêtres, à la fraternité où nous demeurons, et nous allons encore nous reposer. Mais là, la fatigue est accentuée par le problème de l'altitude que nous découvrons de plus en plus, les poumons, le souffle est court. Les poumons sont affectés, la pollution également, et on a vu des gens à Mexico avec des masques, et c'est courant. Donc, il y a un problème que nous allons découvrir de plus en plus. Ce sera le repas du soir. Et les repas sont des rendez-vous fraternels. Alors, les pères, les confrères prêtres nous accueillent. Et là, on nous parle plus librement. Aussi, on s'informe de nos journées, ce qui leur plaît, ce qui nous plaît aussi. Alors, ce matin, quelqu'un m'avait demandé qu'est-ce qui me plaisait à Mexico. Et j'ai répondu, ce qui me plaît encore, et ça faisait quand même quelques jours, c'est le sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe. Ce sont des journées qui sont fort remplies. Alors, ce qui fatigue, comme je le dis, c'est l'émergence de plus en plus des allergies, de la pollution, avec ces milliers de véhicules dans la ville. On ressent ces effets. Alors, après le repas du soir, ce sera la prière avec les prêtres. Alors, nous allons à la chapelle. Nous prenons le temps d'adorer Jésus au Saint-Sacrement. Nous prenons le temps, oui, de méditer, de prier. Et nous terminons toujours par le credo. Bonne nuit. Thank you. les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible », parole énigmatique pour cette nuit noire, dont je suis l'auteur. Petit Jean n'avait pas trouvé les bouts de chandelle. Il se dit en lui-même « Où aurais-je pris le feu ?» Au-dessus d'eux, la fumée était moins dense, et l'aurore dégageait peu à peu ce décor d'apocalypse. Progressivement, les profondeurs furent rejointes par la lumière. La dame de la montagne s'était endormie dans son épuisement. Petit Jean la découvrit sous des dehors accablants. Ses cheveux entremêlés cachaient un visage perdu. Du sang avait coulé de ses yeux. Recouverte de la chemise du gardien de moutons, elle dormait. Il n'osait la réveiller. C'est alors que les poules commencèrent leur engaine. Elles vinrent se promener dans les ruines fumantes là-haut et cherchaient, comme si elles savaient, l'eau qui étancherait leur soif. La dame de la montagne se mit à bouger, puis elle dit « J'ai soif ». Petit Jean puisa à nouveau de l'eau pour elle et lui. Elle but, et toujours les yeux fermés, se mit à redire les paroles qui avaient résonné tant de fois pendant la nuit. Ces paroles avaient certainement un sens, mais Petit Jean n'arrivait pas à le saisir. Elle devait sûrement révéler quelque chose. Soudain, il se mit à crier. Tout son être fut traversé par un long frisson. La dame de la montagne venait d'ouvrir ses paupières. Ses yeux étaient morts. « Mes yeux sont blancs. « Blancs comme des cadavres, » dit-elle. « Que s'est-il donc passé ?» demanda Petit Jean. « Il y a peut-être de cela 3 ou 4 nuits. Le vent a ouvert l'enclos des poules. Lorsque je suis sorti de la chaumière, la foudre m'a frappé. » Puis sa voix se tut. Petit Jean frémissait toujours. Puis elle reprit ces mots mystérieux comme si elle eût un poids sur le cœur. « Nuit noire, morte l'étoile, long horizon bleu, horizon rouge, fil d'or se dessine, du trésor, rapide, l'astre sort. » Refermant ses paupières sur ses yeux blancs, elle ajouta « Jean, de l'eau pour les poules. » Les poules avaient bu en toute liberté, mais Petit Jean avait pris soin de les rassembler dans l'enclos de broches qu'il avait rafistolées. Toutes sortes de questions le jetaient dans l'embarras. Elles devenaient, ces questions, comme de nouvelles flèches dans son esprit, qui partaient sans provenance pour on ne sait quelle cible. Qui tenait cet arc qui avait tiré de telles flèches sur la dame de la montagne elle-même? « Elle est touchée, » se disait-il. Puis, « Ce n'est pas possible, pas elle. » Il devait y avoir pour ces nouvelles flèches un danger nouveau. Que pouvait-il être? Un long collier de pourquoi se mit à l'étouffer, les éternelles sans réponse. « La dame de la montagne touchée !» se répétait-il. « Mais que m'arriverait-il donc à moi ?» Laissant les poules dans leur enclos et oubliant ses interrogations, il revint auprès de la dame de la montagne qui gardait fermées ses paupières. « Peux-tu bouger ?» lui demanda-t-il. « Peux-tu te lever ?»«
Je ne veux plus marcher. »
répondit-elle. Petit Jean resta figé par ces mots. Un grand silence les envahit. Il osa. « Il ne faut pas rester ici !»«
Pourquoi ? »
fit-elle. Ce pourquoi l'atteignit en plein cœur, alors qu'il venait tout juste de s'en libérer. La prison du silence revit surface. Après quelque temps, elle se mit à redire les paroles mystérieuses qu'elle acheva dans des tremblements nerveux atteignant tout son corps. Elle se mit alors à pousser des gémissements, à pleurer et à crier tout ensemble.
« Non,
Son tremblement ne la quittait pas, et ses yeux avaient recommencé à saigner. Petit Jean était bouleversé de ce qu'il voyait et entendait. Il était décontenancé.
« Non, non !»
poursuivait-elle avec des accents de désespoir. Puis, se mettant à trembler de tous ses membres, Petit Jean la prit contre lui, dépassé par ce qu'elle était devenue. La dame de la montagne se laissa consoler. Tenant ses mains toutes glacées, Petit Jean la serrait toujours contre lui en se disant « Que vais-je faire ?» Soudainement, elle entra dans une sorte de délire. Son front suintait au rythme d'incohérentes paroles. Elle brûlait de fièvre. Petit Jean était tout à fait démuni, ne sachant que faire pour la bouger de là. Pourra-t-elle encore marcher? En aura-t-elle la force? Se demandait-il. Harcelé par les pourquoi et l'absurdité de ce qu'il vivait, il resta ainsi tout le long du jour. Transi, la dame de la montagne s'endormit à la brunante, la mort sous les paupières.
Encore la nuit. Petit Jean grelottait, même s'il avait repris sa chemise de gardien de mouton. La dame de la montagne dormait. À peine l'entendait-il respirer. Combien de nuits faudra-t-il encore, se demandait-il, pour qu'elle reprenne des forces. Dans cette seconde nuit qui les enveloppait tous deux, il se mit à forger intérieurement des plans de survie pour la dame de la montagne. Elle ne pourrait demeurer ainsi sous les cendres. Il faudrait reconstruire, remettre la chaumière debout. Mais d'autres inquiétudes vinrent le troubler davantage. Serait-elle en mesure de vivre seule, sur cette montagne pointue, avec ses yeux blancs? Faisant taire toutes ces questions, il résolut de fermer ses paupières pour attendre le sommeil. Et, laissant monter à sa mémoire ses moutons d'en bas, il s'endormit. Petit Jean fit un rêve étrange. Il vit une brebis mettre bas des jumeaux. La brebis s'éprit d'un petit, le laissa s'approcher d'elle tout en toquant l'autre de la tête pour l'écarter. En vain, le petit agneau rejeté essayait de venir à sa mère pour la téter, mais sans cesse elle le repoussait sauvagement avec ses pattes. Témoin de tout cela, Petit Jean avait pris dans ses bras le petit mouton déshérité pour l'amener chez lui. La dame de la montagne, elle, ne dormait plus. Petit Jean s'était également réveillé, encore habité par le rêve qu'il avait eu. Il s'était lourdement adossé à une poutre qui tenait encore. La dame de la montagne lui dit alors
« Tu as rêvé ?»«
J'ai rêvé. »«
Ton rêve parle des hommes, Jean ?»«
Non, des bêtes. » Elle se taisait, toute recroquevillée. Puis, il se mit à lui conter ce rêve étrange, n'arrivant ni à croire ni à comprendre comment la brebis avait pu rejeter l'un de ses petits. « Pourquoi a-t-elle délaissé l'un des jumeaux ? » demanda-t-il.
« Était-elle capable de garder les deux ? »
répliqua-t-elle. « Je l'ai pris dans mes bras, » répondit-il sans hésiter.
« Tu l'as pris avec toi. C'est bien, Jean. Il vivra. »
La nuit n'était pas achevée. Petit Jean s'endormit à nouveau, tandis que la dame de la montagne venait de comprendre que le temps était venu pour elle de vivre la nuit dans les yeux.
C'était Les Carnets du Soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.